Bonjour à tous, merci Élie pour ta prière et que le Seigneur vraiment nous parle encore ce matin, c'est ma prière aussi. Un gamin avait régulièrement des disputes avec sa petite voisine, somme toute classique. Hein. Nous on n'a même pas besoin à la maison que notre garçon aille voir la petite voisine, il peut voir ses deux sœurs à côté, il y a déjà dispute, même pas besoin d'aller voir la petite voisine. Après une de ces énièmes disputes entre ses deux petits voisins, ce garçon décida de porter le coup de grâce à sa petite voisine. En prenant la poupée préférée de la fillette qu'elle avait oubliée dans son jardin. Il s'agissait d'une poupée confectionnée par la maman de la fillette. Et furtivement, donc, le gamin l'enterra dans un coin de son jardin. Naturellement, on l'accusa du vol. Mais lui, il clamait son innocence. « Non, c'est pas moi. » Finalement, les familles se brouillèrent. Et le garçon, lui, se sentait satisfait d'avoir réussi son coup contre sa meilleure ennemie. Mais quelques semaines plus tard, alors qu'il rentrait à l'école, il trouva sa mère de très mauvaise humeur. Elle lui dit « C'est toi le voleur de la poupée ». Et elle le conduisit dans le coin du jardin où il avait enterré le jouet. Une multitude de petites tiges vertes y avaient poussé, marquant la forme d'une poupée. Pour rembourrer le jouet, la maman de la fillette avait fourré des grains de blé à l'intérieur de la poupée. Et une fois en terre, ces grains avaient germé. Ainsi, la poupée avait parlé à sa façon. Et cela avait servi de bonne leçon au garçon. Une bonne leçon pour un mauvais comportement. Et dans la Bible, on trouve aussi quelques mauvais exemples qui doivent nous servir de bonnes leçons pour nous. Et le texte que je vous propose d'étudier ce matin, il figure en bonne place dans ces mauvais exemples qui doivent nous servir de bonnes leçons aujourd'hui. Et je vous propose donc de lire Luc 16, verset 1 à 13. Le texte s'affichera, mais vous pouvez aussi lire dans vos Bibles. Le texte sera la version du Semeur. Luc 16, verset 1 à 13. Jésus dit encore à ses disciples, « Un grand propriétaire avait un gérant. On vint lui dénoncer sa conduite car il gaspillait ses biens. Le maître le fit appeler et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Remets-moi les comptes de ta gestion car tu ne continueras pas à gérer mes affaires. » Le gérant se dit, « Que vais-je faire puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens ? Travailler comme ouvrier agricole ? Je n'en ai pas la force. Me mettre à mendier ? J'en aurais honte. Ah, je sais ce que je vais faire pour que des gens me reçoivent chez eux lorsque j'aurai perdu ma place. » Là-dessus, il fait venir un à un tous les débiteurs de son maître. Il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?»« 40 hectolitres d'huile d'olive, lui répond celui-ci. « Voici ta reconnaissance de dette, lui dit le gérant. Assieds-toi là, dépêche-toi et inscris 20 hectolitres. » Ensuite, il dit à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? 500 sacs de blé. Prends là ta reconnaissance de dette, reprend le gérant, et inscris-en 400. » Le maître admira l'habileté avec laquelle ce gérant malhonnête s'y était pris. En effet, ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de la lumière. Et moi je vous déclare, si vous avez de ces richesses entachées d'injustice, utilisez-les pour vous faire des amis. Ainsi, le jour où elles vous échapperont, ils vous accueilleront dans les demeures éternelles. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous donnera celui qui vous est personnellement destiné ? Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent, ou mammon littéralement. Je ne sais pas quel est votre sentiment à la lecture de cette parabole, mais j'imagine, comme moi j'ai pu le vivre en lisant cette parabole, que plusieurs questions se posent à vous. Déjà, mais c'est quoi cette histoire ? Franchement, qu'est-ce qui a pris Jésus de dénoncer une parabole comme ça ? Qu'est-ce qui a pris Luc de placer une telle parabole dans son évangile ? Au moins, le caractère étrange de cette parabole nous garantit quelque part son authenticité. Parce que je pense que personne n'aurait imaginé mettre ces paroles dans la bouche de Jésus. Cette parabole est surprenante, voire même provocante. Comment le maître peut-il féliciter son gérant pour une transaction frauduleuse ? Au verset 8. Et c'est quoi cette idée de se faire des amis avec de l'argent ? Au verset 9. Ça semble ahurissant, on frise quelque part l'escroquerie. Beaucoup de questions. Autant de questions sur lesquelles je vous laisse méditer cette semaine, en priant que le Seigneur vraiment bénisse sa parole et qu'elle puisse vous révéler des choses Et je vous propose de poursuivre au verset 14. Non, je plaisante. Je plaisante. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ce texte? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations en lisant un texte comme celui-ci. Et je pense qu'il y a vraiment des choses fortes à retenir de ce texte. Et on va étudier ce texte maintenant. D'abord, avant d'aller plus loin, j'aimerais juste rappeler trois principes importants, fondamentaux, concernant les paraboles en règle générale. Le premier, une parabole, c'est une histoire fictive qui comporte souvent un élément qui nous surprend, qui nous choque même. Par exemple, le fils prodigue qui réclame sa part d'héritage à son père alors qu'il est encore vivant. Ou encore ce semeur qui ne semble pas très professionnel. Il balance sa semence partout, voire n'importe où. Et c'est cet élément choquant qui paradoxalement rend la parabole intéressante. C'est un effet de style. Le but, c'est de produire une réaction. Le but, c'est qu'en lisant cette parabole ou quand on écoutait Jésus à cette époque-là, c'est de se poser la question, mais où veut-il en venir? Qu'est-ce que Jésus veut dire à travers cette parabole? Deuxième élément, une parabole a toujours pour but de soutenir, d'illustrer un enseignement spirituel, bien sûr. La parabole du semeur n'a pas pour but de nous faire réfléchir à la meilleure façon de lancer sa semence. Ce n'est pas le but. Celle du bon berger n'a pas pour but de nous expliquer comment il faut faire pour retrouver une brebis. Ce n'est pas le but, on est tous conscients. Chacun de ces textes, et celui-ci aussi on verra, a pour but de dévoiler une portée spirituelle en filigrane derrière l'histoire. Et troisième élément important, une parabole ne s'interprète pas comme n'importe quel autre texte. Lorsque Jésus illustre un enseignement à travers une parabole, il cherche toujours à éclairer un point principal de son enseignement, une doctrine spécifique. Il ne cherche pas à expliquer plusieurs choses. Et l'erreur qu'on fait souvent quand on lit des paraboles, c'est de prendre tel ou tel détail de la parabole comme base de son interprétation, en recherchant derrière chaque personnage, chaque élément de l'illustration, un aspect différent de l'enseignement de Jésus. Au lieu de prendre la parabole comme un tout et de trouver l'enseignement principal que Jésus veut nous dévoiler à travers cette histoire. C'est pourquoi lorsqu'on est confronté à une parabole comme celle-ci, on doit toujours faire l'effort de rechercher quelle en est la vérité centrale, la leçon principale que Jésus veut nous enseigner à travers cette parabole. C'est beaucoup plus simple quand Jésus l'explique lui-même, comme pour la parabole du semeur, par exemple. Mais ce n'est pas toujours le cas, et ici ce n'est pas le cas. Et il y a un effort à faire pour essayer de découvrir quelle est la vérité principale, centrale de cette parabole. Et les applications découleront de cette vérité centrale. Alors maintenant que nous avons vu les trois principes et qu'on les a bien en tête, reprenons cette histoire. Un propriétaire apprend que son gérant gaspille ses biens, au verset 1. Cet homme est un peu comme un administrateur, je vais y arriver, financier des temps modernes. Et c'est aussi un bel escroc. On pourrait peut-être le comparer pour avoir une image au célèbre Bernard Madoff, vous avez entendu peut-être parler à une époque, qui avait monté toute une escroquerie où il payait les intérêts des premiers investisseurs avec le capital apporté par les dernières entrées. La crise boursière en 2008 a fait éclater son système. Plusieurs clients ont voulu retirer leurs fonds pour un montant de 7 milliards de dollars, alors qu'il n'avait plus que 1 milliard dans son compte. L'escroquerie avoisinait même jusqu'à 50 milliards de dollars, cet homme. C'est l'escroquerie la plus énorme qui a été faite par un seul homme, 50 milliards de dollars. C'est un peu un escroc, cet homme qu'on voit, cet administrateur qu'on voit dans cette histoire. Le propriétaire apprend donc qu'il est escroqué par son administrateur. Il le convoque pour lui annoncer qu'il est renvoyé, sans autre explication. Il lui demande juste, avant de partir, d'établir le bilan de sa gestion, un inventaire en quelque sorte, avant de quitter définitivement son poste. Verset 2. Le gérant est paniqué. Il se voit sans avenir, sans ressources, sans amis. Il ne voit pas vers quelle activité se reconvertir. Pas possible pour lui les travaux manuels. Pas possible pour lui d'envisager l'idée de mendier. À cette époque, il est vrai que les parachutes dorés n'existaient pas encore. C'est à ce moment-là qu'il se révèle astucieux. Il trouve la solution à son problème. Du verset 4 au verset 7. Loin de se repentir de sa malhonnêteté vis-à-vis du propriétaire, ce gérant véreux décide d'exploiter sa position une dernière fois en allégeant les dettes de ses clients avec l'espoir qu'ils lui revendront plus tard quand il sera licencié. Il fait de très bons prix d'amis 50% pour l'un, 20% pour l'autre, c'est des bons soldes. On peut dire que ça vaut vraiment le coup. Et face à ce nouveau coup dans le dos, on s'attend à tout, on s'attend à ce que le maître soit en colère, porte plainte. On s'attend à tout sauf à la réaction du maître. Qui, il est écrit, admire l'habileté avec laquelle ce gérant malhonnête s'y était pris. C'est le fameux point qui nous choque à la première lecture. Le fait d'admirer a priori les actions frauduleuses de ce gérant. Comment c'est possible? Comme on l'a vu, une parabole a une portée spirituelle, un enseignement à retirer. Et on comprendrait très facilement si Jésus nous laissait cette histoire comme un contre-exemple. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Mais ce n'est pas ça. Jésus ne nous montre pas ça comme un contre-exemple. Cette histoire immorale doit donc nous servir d'exemple d'une manière ou d'une autre. Le tout, c'est de voir de quelle manière. Est-ce qu'il s'agit d'imiter les actions immorales de ce gérant qui trompe, vole son maître? On peut faire un vote à main levée, oui, non? Non, bien sûr que non. Cela va à l'encontre de tous les principes moraux de la Bible. Nous sommes appelés à mener une vie droite, juste, comme l'affirme par exemple 1 Pierre 1, versets 14 à 16, « Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saint dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, je crois qu'on peut le reprendre à plusieurs, « Soyez saint, car je suis saint, soyez saint. » Donc, ce n'est absolument pas ce comportement immoral que Jésus nous demande d'imiter. Mais alors, quelle est la portée spirituelle de cette parabole? Comment ce mauvais exemple peut nous servir de bonne leçon? Que s'agit-il exactement d'imiter dans le comportement de cet homme? Il faut imiter tout simplement ce pourquoi le maître admire cet homme. Et si on relit, il dit, verset 8, « Le maître admira l'habileté avec laquelle ce gérant malhonnête s'y était pris. » Il admira l'habileté. Il n'admire pas pour sa malhonnêteté, il l'admire pour sa habileté, sa prudence, sa prévoyance, selon les versions. Ce maître pouvait à la fois admirer la perspicacité de son gérant et désapprouver son comportement. Jésus lui-même valide l'intention de cet homme, mais en aucun cas sa manière de faire, qui est contraire à l'éthique biblique. Ce gestionnaire a consacré toutes ses forces, son temps, son énergie à son avenir terrestre. Il s'est investi d'une manière déterminée et cohérente avec son objectif. Pour moi, il s'agit de la fameuse vérité centrale de cette parabole. À travers cette parabole, Jésus veut souligner qu'il attend la même détermination, la même habileté de ses disciples, mais pour un tout autre objectif. C'est ce qu'il explique au verset 8, en mettant en parallèle les enfants de ce monde et les enfants de la lumière. Les premiers mettent tout en œuvre pour réussir sur cette terre, alors que les seconds ne mettent souvent pas autant de force pour amasser des richesses dans le ciel. Ceux qui vivent dans le monde comprennent fort bien comment ils fonctionnent, comment réussir dans ce monde, alors que les disciples de Christ saisissent souvent très mal les règles spirituelles et n'utilisent pas souvent suffisamment leurs biens avec sagesse en vue du royaume à venir. Ce gestionnaire véreux a sacrifié des gains présents pour une récompense future, alors que nous-mêmes, nous sommes souvent peu promptes au même type de sacrifice, sacrifier des gains présents en vue du futur. Le futur, pas pour cet avenir terrestre, mais pour cet avenir céleste. Et ce mauvais exemple doit nous donner une bonne leçon, et Jésus va donner une bonne leçon à travers ce mauvais exemple, avec trois applications en forme de défi pour nous aujourd'hui encore. Et Jésus va faire des parallèles à chaque fois, dans chacun des versets, du verset 9 au verset 13. Verset 9, il fait le parallèle entre les richesses injustes et les demeures éternelles. Verset 10, entre les petites et les grandes choses. Verset 11, entre les richesses injustes et les véritables. Verset 12, entre ce qui est à autrui et ce qui nous appartient. Et enfin, au verset 13, entre Dieu et l'argent, ou mammon, plus littéralement. Et la première application, c'est de savoir utiliser nos biens dans la perspective de l'éternité. Verset 9, on le relit. « Et moi, je vous déclare, si vous avez de ces richesses entachées d'injustice, Utilisez-les pour vous faire des amis. Ainsi, le jour où elles vous échapperont, ils vous accueilleront dans les demeures éternelles. À l'écoute de ce verset, plusieurs questions se posent. C'est quoi ces richesses injustes? Et ces demeures ou tabernacles éternels, de quoi s'agit-il? Quel sens donner au fait de se faire des amis avec des richesses injustes? Pourquoi ces richesses injustes vont-elles s'échapper aussi? Ces richesses injustes désignent très clairement les biens terrestres que nous possédons. Notre argent, notre voiture, notre maison, ce que nous possédons, nos habits. C'est ça, les richesses injustes. Les commentateurs ne sont pas tous d'accord pour dire en quoi elles sont injustes. Peut-être parce que ces biens sont souvent amassés par des moyens injustes, détournés, même si ce n'est pas notre intention première. Dans la Bible, même si les richesses sont neutres, elles ont un caractère ambigu. Paul en témoigne en particulier à son disciple, Timothée. 1 Timothée 6, versets 9 à 10, il montre que l'amour de ses richesses est la porte ouverte à tout ce qu'il y a de pire dans le cœur humain. 1 Timothée 6, versets 9 à 10, donc, « Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonné, certains se sont égarés très loin dans la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. » Donc les richesses sont la racine de bien des maux. Mais d'un autre côté, les richesses peuvent aussi être utilisées de manière positive, généreuse, dans l'œuvre du Seigneur. Et Paul continue dans le même chapitre, au verset 18 à 19, « Recommande-leur de faire le bien, d'être riches en œuvre bonne, d'être généreux et de partager avec les autres. Ils s'assureront ainsi pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr afin d'obtenir la vraie vie. » Pardon. Le gérant malhonnête de la parabole s'est fait des amis avec des richesses injustes, en vue de ce qui arriverait après son licenciement. Il a investi pour son avenir. Et dans le même sens, en tant qu'enfant de lumière, nous sommes appelés à utiliser nos biens terrestres dans une perspective céleste, pour l'avancement et la cause du royaume de Dieu. Ces richesses injustes vont venir à manquer, tout simplement parce que ce sont des richesses matérielles qui n'auront plus lieu d'être quand nous serons près de Dieu. Elles ne seront plus là dans le royaume éternel. Mais en attendant ce moment, nous avons un choix décisif à faire sur la manière dont nous voulons utiliser et investir nos biens terrestres aujourd'hui. Comment est-ce que je vais employer les biens dont je dispose pendant le temps de ma vie terrestre? Si je m'en sers uniquement de manière égoïste, pour mon propre bien, qu'en restera-t-il lorsque je partirai, lorsque je ne serai plus rien, plus là pour en profiter? La réponse est simple, rien, rien. Mais si je m'en sers pour faire du bien autour de moi, en vue de l'avenir céleste, l'investissement en vaut la peine, et c'est le meilleur investissement qui soit. Un exemple tout simple, si je soutiens un centre de vacances chrétien, un missionnaire à l'étranger ou en France, et que des gens se convertissent à travers cette œuvre ou ce ministère, alors j'investis pour l'avenir de manière grandiose, extraordinaire. Par cette première application, Jésus nous encourage à utiliser nos richesses, malgré leur caractère ambigu, en ne les mettant pas au service de l'injustice, mais au service de la justice. En ne les mettant pas au service de l'avidité, de l'égoïsme, mais au service de la générosité, en vue du bien des autres, pour l'avancement de son royaume. Imaginez, vous êtes au ciel, et là, quelqu'un que vous n'avez jamais vu de toute votre vie terrestre vient vous voir pour vous remercier, car grâce à tel ou tel don, vous lui avez permis de découvrir la Bible, vous lui avez permis de se convertir. Y a-t-il plus bel investissement? Utilisons nos biens de façon intelligente dans la perspective de l'éternité. Un jour, dans une école talmudique, un élève demanda à son rabbin « Pourquoi un pauvre et amical est prêt à aider, tandis qu'un riche ne nous remarque même pas ?» Le rabbin lui demanda alors de regarder par la fenêtre. Il y voit une femme avec son enfant qui va au marché. Ensuite, il lui dit de se tourner vers un miroir et lui demande ce qu'il voit. L'élève répond « Moi-même ». Et le rabbin termine en lui disant « La fenêtre est faite en verre, le miroir aussi, mais au fond de ce dernier, il y a une couche d'argent. Et vois-tu, dès qu'on met un peu d'argent derrière le verre, on ne se voit plus que soi-même. » Quel est notre rapport avec nos biens matériels aujourd'hui? Est-ce qu'on ne se voit plus que soi-même à travers ce que nous possédons? Élie parlait pendant le temps de la scène du fait de ne pas se confier dans ses possessions. Est-ce que nous nous confions dans nos possessions? Christ t'appelle à te repentir si c'est le cas, pour être délivré de cette idolâtrie, changer de perspective en utilisant tes biens généreusement dans la perspective de l'éternité. Deuxième application, il faut savoir faire preuve de fidélité dans la gestion de nos biens. Du verset 10 au verset 12. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance dans ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui vous confierait les véritables? Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des biens d'autrui, qui vous donnera celui qui vous est personnellement destiné? Christ nous appelle à la fidélité en toutes choses, et d'abord dans les petites choses. Quelles sont ces petites choses? Il s'agit tout simplement des biens terrestres que nous possédons. Ce sont des petites choses au regard de Dieu. Et Dieu nous demande d'être fidèles dans la gestion de ces petites choses, la gestion de nos biens terrestres. Dieu s'intéresse à la façon dont nous gérons nos biens dans ce monde, pour différentes raisons. D'abord, parce que tous ces biens lui appartiennent à lui. Et c'est ce que nous avons vu dans le psaume que Ricardo a cité, le psaume 24, en début du culte. Tout appartient à Dieu. Nos biens lui appartiennent aussi. En tant que chrétien, tous mes biens sont la propriété de Dieu, qui m'en a confié uniquement la gestion, en attendant la venue de son royaume. Et c'est le sens du verset 12 où il est question de la gestion du bien d'autrui. Nous sommes en train de gérer les biens de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est Dieu. Tout ce que je gère appartient à quelqu'un d'autre, appartient à Dieu. Nous sommes uniquement des gestionnaires. Et l'ultime preuve de ce fait, c'est que nous n'emporterons rien avec nous au paradis, le jour de notre mort. À ce propos, Christian Singer a écrit « La mort ne nous enlève que ce que nous avons voulu posséder. » La mort ne nous enlève que ce que nous avons voulu posséder. Si nous vivons pour un compte en banque, une maison, la bourse, je ne sais quoi d'autre, nous perdrons tout au moment de notre mort. Je ne pourrai rien emporter de ma maison. Ni mon PC, ni n'importe quel meuble, ni un objet de déco, ça c'est plus pour Manu que pour moi. Ni... Rien, pas un seul brin d'herbe, rien je ne pourrai emporter. Je ne peux rien emporter de ma maison. Sauf peut-être les trois personnes qui dorment au premier étage. Sauf peut-être les personnes que j'invite chez moi. C'est tout ce que je peux emmener, espérer emmener avec moi. Rien d'autre. Et réaliser cela de manière concrète dans nos vies nous aide à réaliser les priorités qui doivent être dans nos vies. Le matériel ou les personnes. C'est tout ce que je peux espérer emmener. Et ça change beaucoup de choses dans nos perspectives. Dieu s'intéresse aussi à la manière dont je gère mes biens, parce que cela permet à Dieu, comme on l'a lu, de tester notre fidélité à travers nos biens terrestres. John Piper a écrit que l'argent que nous possédons aujourd'hui est un test pour l'éternité. L'argent que j'ai aujourd'hui est un test pour l'éternité. C'est bien vrai. Le fait de nous montrer honnêtes, généreux, justes, sages, bienveillants, etc., etc., dans les petites choses, indique très clairement à Dieu comment nous comporterons dans la gestion des grandes choses, des choses spirituelles. Comment savoir si nous sommes fidèles dans les petites choses? Voilà quelques tests très simples que je vous propose. Chacun, je vous laisse répondre dans votre cœur. Peut-on vous confier une petite course à faire et en jouir avant le retour du Seigneur? Peut-on vous prêter 30 euros en espérant les revoir un jour? Peut-on vous confier la responsabilité de la vidéoprojection sans avoir à vous attendre le dimanche matin? Peut-on vous demander de conduire les enfants de l'école dimanche à une activité si vous n'avez plus qu'un seul point dans votre permis, sur votre permis? Peut-on vous confier un livre et espérer le revoir en bon état? Des petites choses où nous pouvons tester la fidélité, notre fidélité. Pour que Dieu nous confie des choses importantes, de nature spirituelle, il faut déjà avoir fait ses preuves dans les choses mineures, petites, de nature matérielle. Si tu es fidèle dans toutes ces petites choses, alors Dieu te confiera les choses importantes, véritables et personnelles. De quoi s'agit-il? De tout ce que la mort ne peut pas nous enlever. À savoir le royaume de Dieu, Luc 12, verset 32. La vie éternelle qui nous est promise, en Jean 3, verset 16. Une couronne de justice, 2 Timothée 4, verset 8. Une demeure dans la maison de Dieu, Jean 14, verset 2. Et encore bien d'autres choses, parce que nous avons un Dieu riche qui veut nous offrir beaucoup. Et nous avons à travailler, à œuvrer pour être fidèles dans les petites choses, pour que Dieu nous accorde les grandes choses dans notre vie. Troisième application que j'ai vue dans ce passage, verset 13, savoir mettre nos biens au service du bon maître. Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent, ou mammon, encore une fois. Jésus conclut en nous rappelant de façon absolue qu'en tant qu'enfants de lumière, nous devons nous mettre au service de Dieu et refuser de nous soumettre à la domination de l'argent, comme c'est le cas partout dans le monde aujourd'hui, ou de mammon. John Stott a écrit « Le cœur du problème, c'est le problème du cœur. Le cœur du problème, c'est le problème du cœur. Où est mon cœur ? Vers quoi mon cœur va-t-il ? Qu'est-ce que nous chérissons le plus sur cette terre ? Pour qui vivons-nous ? Ou pourquoi vivons-nous ? Pour Dieu ? Pour mammon ? Pour le monde à présent ? Pour le monde à venir ? Qu'est-ce qui fait notre vie ici-bas ? En Luc 12, verset 34, Jésus ne dit pas autre chose lorsqu'il affirme « Là où est ton trésor, là aussi sera votre cœur. » Si ce matin, tu as conscience que ton trésor n'est plus en Dieu, n'est pas en Dieu, dans un quelconque bien terrestre, dans une richesse injuste, dans une petite chose, alors le Seigneur t'appelle à te repentir, à remettre les choses en perspective. Pourquoi vis-tu ? Pour ce monde ou celui à venir ? Ne pouvons pas courir après la gloire terrestre et après la gloire céleste. C'est impossible. Il y a un choix à faire, une décision à prendre. Et ce n'est jamais acquis définitivement. Nous avons besoin de toujours nous repositionner par rapport à notre choix décisif de servir Dieu, de ne pas servir l'argent, de ne pas servir pour ce monde, mais servir pour le monde à venir. Un homme de condition modeste, aimant les belles et les bonnes choses de la vie, possédait tout juste l'argent nécessaire à sa survie. Un jour, au cours d'un voyage, il rencontra un millionnaire névrosé qui lui raconta ses exploits financiers, lui parla des grands efforts qu'il déployait pour amasser son deuxième million. Cet homme lui dit alors, « Je suis en réalité plus riche que vous, car je possède tout l'argent que je désire, pas vous. Où en est mon contentement ? Nous avons tous des biens, plus ou moins importants, selon ce que le Seigneur nous a donné. Mais quelle que soit l'importance de nos biens, grands ou peu, nous courons tous le risque de nous mettre au service de nos biens terrestres, d'avoir comme objectif de faire fructuer uniquement nos biens terrestres. Comment les mettre au service de Dieu au lieu de les mettre au service de l'argent ? Cela peut se faire de différentes manières, par le soutien financier de telle ou telle œuvre, par l'accueil de personnes qui ne peuvent pas vous rendre l'appareil, par le parrainage d'un enfant, dont on parlait samedi hier soir avec le groupe de jeunes par exemple, par une aide concrète auprès de frères et sœurs. Il y a plein et multitude de manières de mettre nos biens au service d'autres, et pas à son service égoïstement. À travers cette parabole, en conclusion, Jésus souligne ce qu'il attend de ses disciples, ce qu'il attend de chacun d'entre nous ce matin, de la détermination, de la cohérence, de l'habileté en vue du royaume à venir. Francis Chan a écrit « Si on demandait ce qui est le plus grand bien sur cette terre, quelle serait votre réponse ? Un championnat de surf à grand spectacle ? La sécurité financière, la santé, des amitiés sincères et sérieuses, l'intimité avec votre conjoint, savoir que vous allez trouver votre place dans la société. Dieu est le plus grand bien sur cette terre. Point à la ligne. L'unique objectif de Dieu pour nous, c'est lui-même. L'unique objectif de Dieu pour nous, c'est lui-même. Faire de Dieu notre plus grand bien sur cette terre se manifestera concrètement si nous utilisons nos biens dans la perspective de l'éternité, si nous faisons preuve de fidélité dans la gestion de nos biens, si nous mettons nos biens uniquement au service de Dieu. Un défi pour chacun d'entre nous. Nous avons souvent des défis par rapport à la moralité, et c'est important. Mais le défi dont parle le plus la parole de Dieu, c'est le défi de la gestion de nos biens, le défi de l'argent, parce que c'est le cœur de bien des tourments, de bien des maux dans nos propres vies. Que le Seigneur nous parle encore. Amen.